Vous écoutez France Inter, il est 19h21.
France Inter. Le 18-20. Claire Servageant.
Au téléphone sonne ce soir cette question à l'occasion du salon du Made in France qui se tient jusqu'à lundi soir à Paris. Peut-on consommer français sans se ruiner? Une question que l'on se pose régulièrement quand on va faire ses courses, car la mondialisation est une réalité dans nos paniers depuis bien longtemps. Il faut dire qu'entre un t-shirt à 10 euros et un autre à 60 euros, pour beaucoup le choix est fait. Et pourtant, la question de l'origine de ce que l'on porte, de ce que l'on mange, de ce que l'on achète pour s'équiper est bien présente dans nos esprits. D'après une enquête de l'IFOP réalisée l'an dernier, au moment d'acheter un produit ou un service, plus de la moitié des Français regardent le pays de fabrication. Pour 20% d'entre eux, l'origine du produit fait carrément la différence, même si c'est le plus souvent tout de même la qualité et surtout le prix qui reste déterminant. Toujours est-il que pour 9 Français sur 10, l'étiquette Made in France a son importance, qu'il s'agisse de préserver l'emploi ou les savoir-faire nationaux, comme si l'acte de consommer devenait militant d'une certaine façon. D'après différentes études, les 3/4 environ d'entre nous seraient prêts à payer plus cher un produit fabriqué dans l'Hexagone. Alors, on se demandera jusqu'à quel point cette affirmation est vraie. On se demandera au passage ce qu'est réellement un produit Made in France. Avec nous pour aborder tous ces sujets, Arnaud Montebourg, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Ancien ministre de l'économie et du redressement productif, fondateur du label Bleu Blanc Ruche, un miel 100% français. Guillaume Gibault, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef d'entreprise, vous aussi, à la tête du Slip Français, hein, une marque qu'on connaît bien. À nos côtés également, Alain Bazot, bonsoir.
Bonsoir.
Président de l'UFC Que Choisir. Alors surtout, n'hésitez pas à nous appeler, le standard attend vos appels.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et un premier appel, celui de Patrice, qui nous appelle de la Meuse. Bonsoir Patrice.
Oui, bonsoir à tous.
On vous écoute Patrice.
Eh bien, c'est une question assez vaste. Hein. D'abord, je me demande s'il n'y a pas une certaine duperie des consommateurs sur des produits prétendument fabriqués en France, alors qu'ils ne le sont que pratiquement partiellement, parfois de façon très mineure. Comment s'y reconnaître? Est-ce qu'il ne faudrait pas changer un petit peu la législation pour dire voilà, ce produit est entièrement fait en France? Et puis se questionner sur la consommation des produits français, c'est aussi se questionner sur les paramètres de la consommation, la production, la distribution, la consommation, avec la responsabilité qui incombe à chacun, responsabilité par rapport aux coûts sociaux, environnementaux et aussi, et là j'y tiens, moi, le bien-être animal. Consommer français, c'est pas forcément un gage de garantie en la matière. Quand vous pensez à tous ces poulets d'élevage en batterie, c'est purement scandaleux, quoi. Donc entre un poulet élevé en batterie français et un poulet de ferme élevé en Allemagne, par exemple, puisque j'habite en Lorraine, je préfère avoir un poulet allemand élevé en plein air. Et puis vous savez, votre thème d'émission rejoint un thème qui est un peu le fil rouge souvent sur France Inter, c'est celui de l'environnement. Parce qu'on tourne en rond depuis des années sur le bien-être, la planète, etc. C'est très bien, mais je crois qu'il y a un sujet qu'il faudra vraiment aborder un jour, c'est celui des coûts de transport. Et tant qu'on ne multipliera pas par 10 les coûts de transport, eh bien on n'en sortira pas. Voilà.
Bah merci Patrice, il y a plein de choses dans votre question. Et la première, qui est quand même fondamentale, c'est qu'est-ce qu'un produit Made in France? On va essayer de répondre à cette question. Arnaud Montebourg, est-ce qu'il y a une définition précise pour
commencer? Comme vous le savez, l'Union européenne interdit aux États membres de fixer une législation définissant un contenu national d'un produit. Pourquoi? Parce que la Commission européenne, dans son idéologie libérale, considère que c'est une atteinte à la liberté du commerce. Pour moi, c'est le contraire. La liberté du consommateur, c'est de pouvoir choisir en connaissance de cause, donc de savoir ce qu'il y a dans ce qu'il achète. Et on n'a jamais réussi à construire une majorité. Je me souviens avoir campé à Bruxelles, littéralement, pour essayer de convaincre, quand j'étais au gouvernement, nos collègues allemands, notamment, et le vice-chancelier, ministre de l'économie, qui était mon collègue, me dit, monsieur Gabriel m'avait dit, je ne veux pas qu'on sache que les Porsche sont fabriqués à Bratislava. Bon, voilà, c'est la question que pose votre auditeur.
C'est une
notre
bonne question.
Auditeur.
Il y a quand même des produits sur lesquels on voit marqué fabriqué en France.
Eh bien, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, et M. Bazot du FC Que Choisir répondra encore mieux que moi à ce sujet, il y a des labels qui sont des labels de garantie avec des certifications qui sont faites par des laboratoires indépendants, l'AFNOR, Veritas, qui contrôlent et qui établissent un certain niveau de d'origination. En France, c'est le cas d'Origine France Garantie. Là, il y a une preuve, il y a un contrôle. Le reste, ce sont des autoproclamations avec souvent un peu de manipulation.
Alain Bazot, c'est aussi flou que ça?
Ah ben clairement. On a une absence de cadre législatif et réglementaire
Ça vient d'être dit sur le plan européen. Le terme Made in, fabriqué à, donc Made in France, Made in Italie, Made in Allemagne, ce terme-là n'est pas encadré, organisé sur le plan européen. Et sur le plan national, c'est pas mieux. Il faut que les consommateurs sachent que quand ils voient Made in France, ça leur donne pratiquement aucune indication sur la réalité, sur la fiabilité du terme. Je vais vous prendre un exemple. On a tous en tête la grande entreprise Leap qui fabrique des montres. Donc c'est marqué Made in France. Qu'est-ce qui est fait en France au juste? Le cœur de la montre, qui est le mouvement, c'est pas fait en France. Le boîtier n'est pas fait en France. Bracelet, la vitre, qu'est-ce qui est fait en France? C'est l'assemblage.
Le lieu de la dernière transformation substantielle,
donc,
qui prend
quelques minutes. Quelques minutes. Et donc, tout le plus gros est fait ailleurs. Bon. Et pour autant, quand on achète Leap, en plus avec tout l'historique, les luttes pour garder l'entreprise à Besançon, etc., vous achetez Leap et vous voyez Made in France, vous pensez œuvrer pour l'emploi en France, eh bien, vous faites avoir. Même chose pour les vêtements. Comment peut-on comprendre que, par exemple, une chemise de nuit, le tissu viendra de Chine, la broderie viendra de Chine. Mais si c'est cousu en France, on va pouvoir mettre Made in France. Mais des chaussettes qui sont cousues en France, elles ne pourront pas avoir le Made in France. Bref, on n'y comprend rien, ça n'est pas sérieux. Et alors, le peu de réglementation qu'il y a, donc l'État est en carence fondamentale. On est en train d'instrumentaliser les consommateurs sur ce mot d'ordre qu'il faut acheter français. On culpabilise le consommateur en lui disant « s'il y a du chômage, c'est à cause de toi ». Achète français. Et il n'y a aucun outil fiable. Quand je dis aucun outil, il y a quelques initiatives privées. On peut les saluer. On en parlera sans doute. Mais attendez, il faut attendre des initiatives privées qui vont sans doute se multiplier. Mais du coup, ça va être la jungle. Parce que chacun aura son propre cahier des charges, son mode de contrôle. Et aujourd'hui, le Made in France, donc, il est insuffisant. Il est trompeur pour le consommateur. Et en plus, les contrôles, les sanctions, est-ce que vous en avez déjà vu avec l'état de la DGCCRF qui n'a plus aucun moyen humain? De toute façon, c'est le laisser aller, le laisser faire. Et le consommateur est empapaouté, instrumentalisé avec ça.
Alors, Guillaume Gibault, le slip français, vos slips, parce qu'il n'y a pas que des slips.
On ne peut pas les faire plus made in France.
Ils sont vraiment français.
Qu'on les fait, et je vais répondre en détail à la question. Juste, je reviens à la question de notre auditeur. Je pense qu'en fait, la réponse, elle est pour moi beaucoup dans le rôle de l'entreprise, en fait. Il parle de coût sociétal, de coût environnemental, et aujourd'hui, je crois qu'il y a une nouvelle génération d'entreprises dont on fait partie qui est en train d'arriver, de dire, en fait, il faut qu'on arrive à faire marcher un coût financier, la valeur des choses avec quel est le coût environnemental et le coût sociétal de mon activité, et arriver à avoir des entreprises positives qui essaient de régler des problèmes de société. Et donc, si je réponds concrètement sur notre slip, nous, on ne peut pas faire le plus made in France que nos produits, puisqu'à partir du fil de coton, donc le coton ne pousse pas en France, donc on importe des bobines de fil. À partir de la bobine de fil, tout le reste des étapes sont entièrement fabriquées en France. C'est-à-dire qu'on va tricoter la matière, on va la teindre, on va la découper, on va l'assembler avec donc les différents morceaux d'empiècement en France, avec la confection en France, l'élastique, la cocarde, la vignette, la boîte, le packaging, tout le reste est fait en France. Donc à partir de la matière première qui ne pousse pas en France, on fait tout en France. Donc sauf à faire pousser du coton en France par le réchauffement climatique, ou alors option plus crédible, arriver à faire du coton recyclé à partir de nos anciens vêtements, on pourra faire un produit qui est entièrement fabriqué en France et surtout circulaire. Donc ça, c'est un vrai point intéressant. Et tout ça, moi je pense que le maître mot, c'est la transparence. Et l'entreprise qui veut adresser un sujet de société, de dire comment est-ce qu'on fabrique les produits qu'on consomme en voulant les fabriquer durablement, localement, bah, en fait, il peut y avoir des labels, il peut y avoir des normes, mais surtout, en fait, on va faire cette démarche authentique et sincère de transparence, de mettre ça sur notre site, de mettre ça sur nos réseaux sociaux, de faire des visites en Facebook Live de nos usines pour reconnecter les gens et expliquer. Et je pense qu'il y a effectivement beaucoup de pédagogie. Et à l'heure des réseaux sociaux et d'un Facebook Live, les artifices qui ont pu être utilisés, qui peut-être existent encore aujourd'hui, de mettre Made in France pour un truc qui ne l'est pas, la vision long terme de ça, le sens de l'histoire, c'est que ça ne tient plus, à mon sens. Donc, et ça ne tient plus. Et aussi, les entrepreneurs dont je fais partie de cette nouvelle génération ont envie de faire autre chose. En fait, on a envie d'entreprises qui servent juste à autre chose que juste gagner de l'argent, en fait.
C'est votre cas aussi, Arnaud Montebourg, avec
oui,
votre
je miel. N'ai pas, je ne suis pas de la génération de Guillaume Gibault, mais franchement, je me reconnais parfaitement dans ce combat. D'ailleurs, Bleu Blanc Ruche est une marque de combat qui mène un combat pour l'équité dans la rémunération de l'apiculteur. Donc nos miels, une partie de la rémunération va à l'apiculteur, en contrepartie de quoi il augmente le nombre de ruches et repeuple. Hein, c'est un effort en faveur de la reconstruction de la biodiversité effondrée et abîmée. Donc c'est une cause évidemment qui se passe sur le territoire national intégralement. Et nous défendons le label Origine France Garantie parce que c'est le seul qui existe, qui apporte une preuve, mais il nous coûte à nous. Et là je suis d'accord ce qu'a dit M. Badon. Nous on est obligé de payer des organismes certificateurs qui vont vérifier qu'on est bien Made in France. C'est à l'État de dire aux autres, vous n'êtes pas Made in France, on enlève les drapeaux. Vous comprenez? Et donc, je pense que le gouvernement, et là-dessus, je me souviens avoir rencontré l'Union européenne comme un obstacle, va devoir affronter cet obstacle. Il est bon de temps en temps de désobéir à la maladie bureaucratique et trop juridique de l'Union européenne. Et le gouvernement doit faire ça, parce qu'on en a besoin.
Alain Bazot, Patrice, dans sa question tout à l'heure, parlait de la responsabilité qui incombe à chacun d'entre nous, aux consommateurs. Oui. Ça existe, cette responsabilité, même sans attendre peut-être que l'État ait posé un certain nombre d'obligations, ou ça n'existe pas, cette responsabilité?
Moi, je ne peux pas entendre qu'on responsabilise le consommateur quand il n'a pas les moyens de distinguer des produits qui sont authentiquement fabriqués majoritairement avec de l'emploi français sur la France, etc.
Même pour les produits alimentaires, on n'arrive pas à savoir.
Mais non, pour les produits alimentaires, l'Europe a interdit d'indiquer l'origine, sauf pour les produits non transformés. Donc les fruits et légumes, le steak, la côte de bœuf, bon, ou le steak de bœuf, là, oui, on a effectivement l'indication. Donc là, le consommateur, il a cette responsabilité, oui, dans ce cas-là, mais vous voyez, c'est le segment, il est quand même très réduit. Et depuis quelque temps, suite au scandale des lasagnes de cheval, bon, etc., on a obtenu en France une expérimentation pour 1 ou 2 ans où, en France, on peut indiquer dans les produits transformés, donc des lasagnes, des choses comme ça, dès qu'il y a, à partir de 8% de viande, on doit indiquer l'origine de la viande. Ou s'il y a du lait, l'origine du lait. C'est à titre dérogatoire, c'est pas imposé de façon générale en Europe, c'est provisoire, on ne sait pas si ça sera pérennisé, on va se battre pour que ce soit pérennisé, mais il faut savoir que les professionnels sont des petits malins, parce que au lieu de mettre l'origine du produit national, d'où ça vient, de quel pays, ils sont rentrés dans une petite brèche qui est dans le dispositif, comme quoi le diable est dans le détail, c'est-à-dire ils ont le droit de mettre origine UE. Donc on retombe dans l'opacité à cause des professionnels qui ne jouent pas le jeu.
Arnaud Montebourg et Guillaume Gibault, je vous promets que je donne la parole dans une seconde, mais je voudrais qu'on passe par le standard de France Inter. Thierry est à Craponne, dans le Rhône. Bonsoir Thierry.
Bonsoir madame.
Vous aviez une question pour nos invités.
Belle commune de l'Ouest lyonnais. Pour acheter français, c'est très simple. Il suffit d'éliminer Internet, d'éliminer les supermarchés et d'aller votre petit commerce où vous avez confiance avec les interlocuteurs.
Et vous vivez que en allant chez nos petits commerces du coin?
Absolument. Absolument.
Non. Bon, bah écoutez, bravo. Hein.
Mais heureusement qu'ils n'ont pas disparu dans l'Est lyonnais, parce qu'en Saône-et-Loire, qui est à 60 km au nord de Lyon, le petit commerce se fait rare. Et c'est bien ça le problème d'ailleurs, c'est que le système de la distribution aujourd'hui a organisé l'importation comme moyen de faire pression sur les prix des producteurs. Les producteurs sont les agriculteurs, les petits industriels, et c'est comme ça qu'on a tué l'industrie française. Donc on a un petit sujet, vous allez en Italie, c'est tout le contraire, regardez, il y a des épiceries partout, et vous avez des circuits courts. Voilà. Donc, le travail qu'on doit faire, c'est un travail de reconstruction du lien avec le producteur. Payer le travail, le connaître, ce producteur. Et grâce à Internet, justement, alors là, je dément ce que vient de dire ce monsieur, on peut tout savoir. Les réseaux sociaux, c'est une chose, mais vous avez aujourd'hui des informations très faciles à obtenir. Par exemple, sur nos pots de miel bleu-blanc-ruche, nous mettons le nom de l'apiculteur. Ça permet d'ailleurs à nos clients de réviser leur sous-préfecture et leur code postaux.
C'est pas inutile.
Guillaume, je suis assez d'accord avec ça et je rebondis sur l'histoire de la responsabilité des consommateurs. Je pense que l'information est peut-être pas parfaite, peut-être qu'il faudrait plus de normes pour obliger, mais il y a quand même un niveau d'information quand même important aujourd'hui, avec notamment des applications. On peut parler de Yuka, il y en a d'autres dans la mode
non,
qui
non,
arrivent
non,
comme
alors là, non. Alors là, je dément complètement.
Alors, laissez-moi au bout de mon idée. L'information n'est peut-être pas parfaite, mais aujourd'hui, elle existe quand même. Et je suis d'accord avec
les consommateurs sont demandeurs, en tout cas. Hein,
aujourd'hui, par les réseaux sociaux, on peut poser les questions directement aux marques. Et là, à ce moment-là, c'est plus la même histoire. Quand on pose une question directe en disant comment est fabriqué le produit ou comment, quand la marque met une réponse, si la réponse est fausse, là, on a un vrai sujet qui est autre que de pas forcément... c'est, je pense, un autre niveau. Et l'idée d'Internet, là, je suis 100% d'accord aussi avec vous, sans Internet, nous, on n'existerait pas. L'idée de base du style français, c'est d'arriver à vendre le plus directement possible. Pourquoi ? Parce qu'on fabrique trois fois plus cher que si on fabriquait ailleurs. Notre produit qu'on vend à 35 euros, on l'achète entre 10 et 12 euros. Si on le fabriquait en Afrique du Nord, on fabriquerait 7 euros. Si on le fabriquait plus loin, on le fabriquerait de moins en moins cher. Donc, ce coût plus important, aujourd'hui, on arrive à le compenser par une distribution beaucoup plus directe et notamment grâce à Internet. Sans Internet, aujourd'hui, notre modèle ne pourrait pas tenir. Et donc ça, c'est peut-être qu'un début. Peut-être que derrière, avec des économies de volume, en innovant, on arrivera à fabriquer moins cher. Aujourd'hui, c'est pas encore une réalité. Ça pose évidemment la question du prix du Made in France et de la valeur de ce qu'on met derrière. Mais en tout cas, Internet est un vrai levier pour arriver à faire émerger à l'échelle des innovations et d'autres façons de faire, bizarrement peut-être plus locales, mais en tout cas plus durables.
Mais je vous remercie, Guillaume Gibaud, de revenir à notre question du début du téléphone sonne sur le coût, effectivement, de ce qui est produit, fabriqué ici en France. Est-ce que c'est plus cher ou pas ? Qui veut répondre ?
Pour moi, non. Les voitures allemandes sont deux fois plus chères ou très très chères par rapport aux voitures françaises. Pour moi, il est évident que le textile dans la mondialisation asiatique finalement a connu une vague de délocalisation. Mais aujourd'hui, vous avez une nouvelle génération. Je rends hommage au slip français, à 1083.
Les jeans.
Beaucoup d'autres. Mmh. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Toute cette nouvelle génération, ils ont décidé d'utiliser Internet et donc de supprimer le système de la distribution. Et donc de vendre directement. La conséquence, eh bien, c'est qu'ils peuvent payer le producteur, la confection, les doigts d'or des couturières. Et ils ont créé des emplois qui avaient disparu avec des savoir-faire. Et le consommateur, il soutient ça. Voilà. Et donc, les marques équitables, que ça commence par C'est qui le patron, nous en sommes une autre, il y en a beaucoup d'autres dans l'alimentation, c'est finalement... une manière en offrant la qualité, la transparence, le soutien à la cause de ceux qui produisent et travaillent sur notre territoire, que les consommateurs défendent en quelque sorte une manière de vivre. Hein, et de produire, de vivre et de travailler au pays. J'ai envie de dire ça.
Alain Bazot, sur la question du prix.
Sur la question du prix, il faut d'abord, quand vous parliez d'une voiture française, il faut savoir ce qu'est une voiture française. Est-ce que Renault, c'est une voiture française ?
Ah ben, ça dépend des modèles.
Et oui.
Il y en a qui sont faits à Douai, il y en a qui
exactement.
Sont faits à
Flins,
qui sont faits à Bursa, en Turquie.
La Yaris, qui est une Toyota, on ne va pas penser que c'est une voiture française, alors qu'elle est fabriquée en France.
Elle est fabriquée à
Valenciennes. Si vous achetez une 208 Peugeot, elle n'est pas faite en France. La 308, oui. Bon. Alors, quand on dit que le consommateur, il est bien informé, moi, je reviens quand même sur l'idée que, actuellement, on en parlait tout à l'heure, il y a le French washing. Aujourd'hui, il y a un marketing effréné entre le embouteillé en France, transformé en France, déplacé en France, cousu en France, avec, aujourd'hui, c'est le 14 juillet partout. Il y a du bleu, blanc, rouge partout. Il y a l'hexagone qui est représenté partout. Il y a le coq français. Enfin, je veux dire, ça devient épouvantable. Alors, quand on me dit que le consommateur il est informé, je dément complètement cette information. Il y a des publicités effrénées. Moi, je peux vous en citer une. J'avais une discussion avec un responsable agricole, le président, ça devait être Confédération Paysanne, qui me montrait des yaourts, pas des yaourts, de la compote de pommes et de kiwis. Hein, une grande marque de distributeur hein, qui fait beaucoup de pubs en disant qu'il est proche des agriculteurs. C'est la grande campagne de Super U. Et quand on regarde, c'est marqué « Transformé en France ». Et quand on va chercher, vraiment, faut aller chercher. Il faudrait que les consommateurs passent leur temps 3 heures dans les magasins pour aller lire les étiquettes. On va chercher eh bien la pomme et le kiwi. C'est bien connu qu'il n'y a pas de producteur de pommes en France, ni de kiwi. Eh bien, c'est complètement importé. Bon. Et pourtant, le consommateur, quand il achète ce produit Super U, avec tout ce marketing, et bien, il croit qu'il fait une bonne action.
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il va falloir qu'on règle ça. Du genre Yuka, mais qui soit fiable, parce
que
vous avez l'air
Yuka,
de ne pas être
pas
très...
De Yuka, c'est un peu compliqué chaud, à parler, parce que Yuka, ce n'est pas du Made in France. Yuka, c'est la
c'est
composition
la composition. Oui, mais est-ce qu'il faudrait quelque chose de ce genre-là, avec
peut-être
l'origine ?
Peut-être, il faudrait normaliser qu'est-ce qu'on appelle Made in France ou Origine France, que ce soit pas une multiplication de labels, même s'ils sont bons, qui sont privés, parce que on va arriver à en avoir 50 des labels sur le miel, bon, il y en a sur le slip, après il va y en avoir 50 par filière. Ça n'est pas admissible pour le consommateur qui va être perdu, parce que le niveau d'exigence des uns des autres va pas être le même. Bon, donc il faut, je vais pas revenir là-dessus, mais il faut que sacraliser le mot France, il faut qu'il soit défini réglementairement, etc., par les autorités publiques. Je reviens pas là-dessus.
Juste une question, quand l'INSEE, parce qu'il y a une étude récente qui nous dit que le Made in France représente 81% de la consommation totale des ménages, 36% des biens manufacturés, on peut croire l'INSEE ou même ça c'est pipeau et c'est pas certain?
Non, peut-être, mais parce qu'ils prennent l'étiquetage Made in France. Moi je suis en train de dire que Made in France, ça garantit pas l'emploi, ça garantit pas que réellement c'est fabriqué en France.
On va ressortir très embrouillé de cette émission.
Dans l'alimentaire, sujet que je commence à connaître un peu mieux qu'avant, nous avons des prix qui aujourd'hui sont un peu plus élevés, c'est vrai, à la production qu'ailleurs. Mais pourquoi ? Parce que la mondialisation a écrasé le prix du travail. Donc on esclavagise partout où on peut, on ne paye plus les gens ni le travail, puis après on dit la France n'est pas compétitive, mais parce qu'on a un modèle de rémunération qui en effet honore le travailleur, qui a droit à une retraite, une santé, et le consommateur, qui a droit à des lois environnementales. On peut importer du poulet brésilien. Je réponds à la personne qui tout à l'heure évoquait l'affaire des poulets. Je préfère les lois environnementales françaises ou européennes plutôt que les lois d'ailleurs, qui n'en sont d'ailleurs pas. Donc ça se défend. Et le consommateur peut le défendre par son action citoyenne, un peu militante, c'est vrai. Et de ce point de vue-là, quand on regarde ce que le consommateur obtient en contrepartie, c'est considérable. Donc il y a un prix de rémunération du travail qui, en France, est le prix de la qualité de la nourriture. Un gouvernement avisé devrait, pour moi, baisser le prix du logement dans le panier, dans le pouvoir d'achat des ménages, et augmenter le prix de la nourriture. Voilà.
Ça, c'est une vaste question. Je vous donne la parole dans un instant, Guillaume Gibault, mais Alice est une consommatrice de Haute-Garonne et un peu militante, Alice, non ?
Oui, un petit peu.
Dites-nous comment vous faites.
Alors, moi, je voulais surtout parler d'une marque de viande qui venait de se créer dans l'Ain, qui vraiment valorise le travail de l'éleveur et qui garantit une naissance de l'animal dans l'Ain. Un animal qui est nourri avec des fourrages de lin, si je me trompe pas, mais qui est élevé et abattu dans l'Ain. Donc on a vraiment un label local qui, à mon goût, est très important, parfois plus important que le bio ou le sans pesticides et tout ça.
Et le prix ?
Le prix est forcément plus élevé.
Mais malgré tout, vous faites la démarche ?
Pour moi, oui, je préfère manger moins de viande et de la viande de qualité, peut-être moins souvent, mais je préfère mettre le prix pour prendre du local.
Merci Alice pour ce témoignage. Tout le monde veut réagir à ce que vous venez de dire, mais j'ai promis à Guillaume Gibault de lui donner la parole. Alors c'est à lui.
Moi, ça rejoint évidemment ce que je disais tout à l'heure du rôle de l'entreprise. En fait, dans une époque où il faut faire moins mais mieux, en fait, on a faussé la vision des prix des choses. Cet exemple de la viande en est un. Dans notre métier, dans la mode, en fait, le vrai prix d'un t-shirt, ça peut pas être 5 €. C'est ce que vous disiez Arnaud tout à l'heure. Ça vaut 5 € parce qu'il est fabriqué au bout du monde par des gens qui sont payés 1 $. Donc en fait, à force d'avoir beaucoup d'offres, beaucoup de produits, de consommer trop sans se poser la question, en fait, on a perdu le vrai sens de la valeur des choses avec des promotions à outrance. Et alors que si on revient à un vrai juste prix qui respecte ce que j'ai dit tout à l'heure, un peu le triptyque d'un prix financier qui est celui sur l'étiquette, mais aussi d'un prix sociétal, environnemental, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière, quelles sont quelque part nos valeurs, ont de la valeur, en fait, de dire bah oui, ce qu'on met dans le prix des normes françaises, de la juste rémunération des gens à toutes les étapes de la chaîne, bah ça vaut un peu plus cher, mais peut-être aussi on peut remettre en question la façon d'acheter et peut-être acheter moins souvent pour acheter mieux et faire un peu plus attention aux choix qu'on fait.
C'est des choix de société.
Oui, enfin, c'est quand même un peu facile à dire. Il faut quand même regarder quel est le pouvoir d'achat des gens les plus modestes. Et quand vous avez une marinière qui a 60 ou 80 euros, qui sera Made in France, etc., c'est sans doute très bien. Et vous avez une famille nombreuse, vous devez faire la rentrée, vous devez habiller tous vos gamins. Moi, je ne vais pas les condamner parce qu'ils achètent à 10 euros. Ils ne vont pas acheter à 60 euros. En revanche, effectivement, quand on doit choisir entre une Golf et puis une 308, le choix, là, il est citoyen ou il est de se dire la Golf, tant pis, je préfère la Golf, mais l'enjeu, c'est que j'achète la 308. Mais vous voyez, ça se fait dans ces gammes-là, dans ces comparaisons-là. Par rapport au prix, là aussi, le consommateur, il se fait quand même berner. Autant quand on est dans des circuits courts, comme l'auditrice tout à l'heure, où on connaît le producteur, voilà, on a toute la chaîne, ça induit de la confiance. Ouais. Parce que le consommateur, il faut qu'il ait confiance. Regardez ce qu'on a découvert sur le bio. On fait que de dire qu'il faut acheter du bio, et il y a un consentement à payer plus cher le bio, parce que les gens ont compris que ça coûtait plus cher à faire, c'est meilleur pour la santé, meilleur pour l'environnement, ils ont un consentement à payer. Sauf que du coup, on
C'était pas forcément plus moral, oui.
On en profite parce que les intermédiaires, qu'est la grande distribution, ils doublent leur marge quand c'est du bio. Eh bien, la meilleure façon de casser la dynamique, c'est, alors, moi, je vais pas reprocher à mon organisation d'avoir mis ça à jour, parce que j'ose espérer que, au lieu de nous faire une loi, là, d'augmenter le seuil de revente à perte, où les consommateurs payent plus cher, sans que les producteurs soient mieux rémunérés, hein, c'est le grand scandale de cette loi Egalim, eh bien, il faudrait faire quelque chose pour, c'est la transparence, hein, qui peut régler ça, mais, clairement, il faut pas que le consommateur, parce que c'est soi-disant français, que ça l'est même pas, que ce soit plus cher et que ce soit pas mérité, il faut pas que ce soit bio, et sous prétexte que c'est bio, que ce soit infiniment plus cher, et non pas parce que ça rémunère des coûts supplémentaires, mais parce que ça fait de la marge supplémentaire aux intermédiaires. Et nous, on est aux aguets là-dessus. Vous voyez bien, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu le greenwashing, hein, tout le monde est vert, tout le monde est vert, et du coup, bah, payer plus. Donc, il y a un côté moral, éthique, et on en profite pour faire des prix qui ne sont pas toujours dus. Ils peuvent être dus, comme c'est le cas de, sans doute, de vos gammes de sous-vêtements, du miel, etc. Et là, le consommateur, oui, il sera consentant à payer. Mais globalement, il reste méfiant. Il a raison.
On va au Standard de France Inter. Eric est en ligne. Vous êtes commerçant, Eric, c'est bien ça?
Oui.
Dites-nous tout.
Alors voilà, moi je suis commerçant, je vends à 80 peut-être pour cent de mes articles que je vends sont fabriqués en Chine. Je suis confronté au même problème que le consommateur, c'est-à-dire que moi en tant que commerçant, j'ai pas plus d'informations qu'eux. J'ai en face de moi des grossistes, donc je fais travailler une centaine de grossistes français, de petites entreprises françaises, mais qui elles importent. Donc je ne suis pas au courant, je ne suis pas plus que ça. J'ai en face de moi des commerciaux qui me disent ce qu'ils veulent. Ils sont là pour un domaine économique. Prenons l'exemple de la marinière, l'exemple est très bon. C'est que la marinière, par exemple, en Bretagne, c'est quand même un classique. Il n'y a pas de champ de coton en Bretagne. Moi, je vends de la marinière qui est fabriquée en Europe.
Vous êtes à Saint-Malo, je précise, hein, Eric.
Oui, voilà, oui. Donc moi je vends de la marinière qui est fabriquée en Europe et je la vends 14,90. Je vois pas. C'est vrai qu'une marinière à 60 euros, moi ça me perturbe quoi quelque part parce que je sais que ça peut pas être fabriqué en France. Quand on va sur les sites de fabricants français, ils annoncent avoir 3 entreprises. Deux localisés en France. On ne parle pas de la troisième. Et à aucun endroit sur leur site internet, vous ne voyez écrit Made in France. Donc, il y a une hypocrisie dans le marché, au niveau des fournisseurs. Nous, les commerçants, on n'y peut rien. Il y a des choses aussi qui ne sont fabriquées qu'en Chine. Des souvenirs peints à la main, des statuettes peintes à la main, à 10 euros, ça ne peut pas être fabriqué en France. C'est pas possible.
Merci,
donc,
Eric.
On se retrouvera sans rien.
Un grand merci.
Juste un autre exemple. Un produit d'un de mes fournisseurs qui avait le même produit en français, une casquette Made in France, une casquette Made in China, puisqu'il avait fait une copie, lui-même fait faire une copie. La casquette Made in France que je vendais 19 euros en margeant très peu, c'est-à-dire je gagnais pas vraiment ma vie, et la Made in China que je vendais 9 euros. Les gens, pour ce que ça sert, on achète celle à 9 euros. Parce que le pouvoir d'achat, c'est le nerf de la guerre aussi. Et donc, il y a une hypocrisie des deux côtés de la rambarde. Désolé d'embrouiller un peu plus l'émission, mais on n'a pas de données pour vraiment, nous, commerçants.
Vous nous embrouillez pas, Eric.
Moi, j'ai perdu 50% de mon, quand j'ai voulu faire du Made in France et de la qualité, j'ai perdu 50% de mon chiffre d'affaires.
Merci mille fois.
Au bout de 2 ans, j'ai changé. Voilà.
Merci mille fois pour votre témoignage, Eric. Arnaud Montebourg, Qu'est-ce que vous lui répondez, Eric?
D'abord, on n'est pas des intégristes du Made in France, c'est pas du 100%. C'est la question de la reconquête. Quand j'étais au gouvernement, qu'on a lancé ce mouvement de société qui a pris de l'ampleur, une prise de conscience, tous, des producteurs, des distributeurs aussi.
Elle a marqué votre marinière, hein, tout le monde en
écoutez,
parle.
Écoutez,
hein.
Tant mieux, j'aurais au moins fait ça.
Hein. Même si elle n'était pas complètement fabriquée en France.
Si, elle était faite en Bretagne chez monsieur, chez Armor Lux. Si.
Assemblée.
Bah, si, sinon on n'aurait pas fait ça. Non, elle était maillée. Non, celle-là, on l'avait vérifiée. Oui, j'ai bien vérifié quand même, je ne fais pas des bêtises pareilles. Alors, on n'est pas des intégristes. Et ce que disait M. Bazot est juste. Chacun selon ses moyens. Voilà. Et ce monsieur qui est commerçant, c'est selon ses moyens et ses possibilités. D'ailleurs, l'industrie aujourd'hui française, elle est trop petite. Aujourd'hui, si on essayait de la relancer, on aurait du mal parce que on a perdu tellement dans la crise des savoir-faire. On est la lanterne rouge des puissances européennes. Hein. On est derrière l'Espagne, derrière l'Angleterre, qui était très désindustrialisée. Donc maintenant, notre problème, c'est comment on reconquiert et on remonte sur des modèles économiques nouveaux où la distribution est disrupté, en fait. C'est ça qui est en train de se passer. Et donc, le modèle numérique est très important. Mmh. Et c'est comme ça que vous avez des produits made in France qui deviennent compétitifs. Donc, c'est ça qu'il faut faire du côté de l'offre. Et puis, du côté de la demande, il y a un moment, il va falloir aussi qu'on s'occupe de la question du prix du transport. On enquiquine le français parce qu'il roule en diesel. Mais excusez-moi, les milliards de tonnes de CO2 déversées par les bateaux qui transfèrent des montagnes, enfin des
de containers,
un container parfois le plus gros container du monde, c'est le PIB du Togo qui se transporte en valeur. Donc qu'est-ce qu'on laisse faire? Donc moi je pense que la mondialisation à un moment ou un autre va devoir se clôturer, ou en tout cas le monde va devoir se rétrécir. Et c'est ce qui est en train de se passer dans les guerres commerciales. On retrouve le retour au territoire et au local.
Guillaume Gibault, on avance parce qu'il est déjà 52.
On disait, la marinière à 14 euros, elle ne peut pas être fabriquée en France. Le coût du travail, tout ce qu'il garantit, ne peut pas fonctionner dans cette économie-là. Et Arnaud, vous le disiez, vous avez raison, l'emploi textile en France dans les années 90, c'était 460 000 emplois, aujourd'hui 58 000. 90% des emplois textiles sont partis de plus en plus loin pour aller fabriquer de moins en moins cher. Du coup, effectivement, pour regagner le combat de la productivité, de l'innovation, arriver à fabriquer moins cher et pour pouvoir arrêter de vendre des marinières Made in France à 50 ou 100 euros, parce qu'aujourd'hui, c'est la façon économiquement dont elle fonctionne, il faut innover et arriver à fabriquer mieux, plus vite, avec des machines plus automatiques, avec le sujet de la robotisation, évidemment, dans cette industrie-là, comme ça peut être le cas aujourd'hui pour la chaussette, par exemple. La chaussette, c'est un produit sur lequel on est très compétitif en France et sur lequel on arrive à sortir en Made in France avec une partie à la main, mais aussi une partie plus robotisée, plus automatique. On arrive à ramener vraiment des volumes industriels. Et je pense que c'est aussi le sens d'une industrie plus circulaire, plus verte, qui permettra d'aller ramener des vrais volumes de production. Et je pense, à terme, de baisser le prix des produits qu'on pourra fabriquer localement.
Marine est à Barcelonnette. Bonsoir, Marine.
Oui, bonsoir. Je suis ravie de passer à l'antenne.
Eh bien, bienvenue à vous.
Et donc, je suis très intéressée par ce sujet parce que je travaille avec des élèves, justement, sur le Made in France et sur ce qui se cache derrière le prix d'une étiquette.
Vous êtes professeur?
Oui, je suis professeur en bac professionnel.
Et alors, vous sensibilisez vos élèves, c'est ça?
Oui, je sensibilise mes élèves. D'ailleurs, je suis allée sur Internet, on a regardé le slip français qui expliquait le Made in France, donc je remercie cette entreprise qui a fait comprendre à mes élèves ce qui se cachait derrière un prix, parce que je leur fais étudier ce qui se cache derrière une étiquette et derrière un prix. Donc justement, je défends avec ça donc le coût du travail en France, le travail qui est fait en France, les savoir-faire français. Donc on sait beaucoup, voilà, c'est le projet que j'ai cette année et on a regardé effectivement le true cost pour que les élèves savent que quand ils vont acheter chez Kiabi, chez H&M, tout ça, qu'est-ce qui se cache, la misère du monde qui se cache derrière un t-shirt à 5 euros. Mmh. Voilà, ça c'est un combat que je mène en tant que citoyenne plutôt qu'en tant que professeur. Et donc voilà, c'est mon combat de cette année dans mon programme en économie. Et voilà, je pense qu'il est très important de sensibiliser les jeunes qui seront peut-être sur le marché du travail de demain et qui ont, s'ils ne vont pas voter, comme je leur dis, votre pouvoir c'est la consommation et par votre acte de consommation, vous pourrez défendre des valeurs. Voilà, donc je tenais à vous remercier déjà pour ce que vous faites en tant qu'entreprise. Et j'avais une petite question pour le slip français. Je voulais savoir le coton d'où il vient et est-ce qu'il est produit avec ou sans les pesticides de Monsanto.
Merci, merci Marine. Ah oui, alors là il y a une question dans la question.
Alors, une question dans la question. Je lui réponds d'abord à sa question. Donc c'est marqué sur le site. Donc le coton pousse en France. Donc on a différents approvisionnements États-Unis, Inde, Égypte. On a quelques gammes en coton bio, mais pas tous. Donc il peut y avoir du pesticide dans certains. Après ils sont tous labellisés Ecotex, qui est un label qui dit qu'il n'y a pas d'impact sur la consommation humaine. Et juste je rebondis sur le documentaire dont elle parle, qui est The True Cost, et c'est dans ce documentaire où il y a cette idée de vrai prix qui cache un prix financier, un prix environnemental et un prix sociétal. Et effectivement, il est assez glaçant ce documentaire sur la réalité de la fast fashion, et je vous encourage à y jeter un œil ce week-end.
Une petite question d'Annick sur franceinter.fr, et on va se dépêcher parce qu'il est déjà 56. Que vaut-il mieux acheter, une voiture Toyota fabriquée en France ou une Renault fabriquée à l'étranger?
Toyota fabriquée en France.
Clairement.
Oui.
Clairement.
C'est des emplois à l'ancienne, des gens qui bossent.
Exactement. Voilà. Faut pas se fier à la marque. Hein, il y a des marques, on dit une marque française, Renault marque française, mais on sait que c'est fabriqué à l'étranger.
Non, pas tout. Non pas faut
tout,
pas dire ça.
Pas tout. Non, vous avez raison.
Je voudrais vous dire quelque chose sur Renault. J'ai négocié avec Monsieur Ghosn, que chacun connaît maintenant, sous d'autres aspects, très durement, quand il a lancé la Clio, modèle actuel, c'était il y a 4-5 ans. Il a dit, moi je le mets à Bursa en Turquie. J'ai dit, non, vous allez le mettre une partie à Flins et on va couper en deux. On a négocié les coûts de production au centime avec les organisations syndicales, avec tout le monde. Et on a rapatrié environ 500 000, 250 à 500 000 véhicules an sur les usines Renault qui aujourd'hui, en France, sur les, je crois, les 6 sites, je suis pas sûr que ce soit 6, c'est peut-être 7, sur les sites de production Renault et d'assemblage, aujourd'hui avec Daimler, avec Nissan, avec Nissan, les partenariats,
oui, la micro Nissan, elle est
bien
France.
Sont fabriqués sur les sites Renault. Donc attention,
non,
vous allez, ne dites pas ça.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est
jeter l'opprobre sur une marque.
Non,
il y a des marques.
Ce que je voulais dire, c'est que Renault, c'est pas synonyme de français. C'est tout ce que je voulais dire.
Mais je crois que là-dessus, vous êtes tous d'accord.
Aucune. Mais Toyota, tout le monde va dire.
Ah mais non, parce que Prius, elle n'est pas fabriquée en France. C'est une Toyota. Voilà. Bon, attention.
Alors, les amis,
c'est
le modèle. Je suis d'accord avec vous. Il est 19h58. Vous allez avoir chacun 15 secondes pour conclure, même pas 10 secondes. Et la priorité des priorités pour chacun d'entre vous, Alain Bazot.
Arrêtez les incantations simplistes auprès des consommateurs. Donnez-lui un cadre pour qu'il ait des repères et qu'il ait la confiance, la sécurité quand on lui dit que c'est français, que ce soit vraiment français.
Arnaud Montebourg, 10 secondes.
Il nous faut maintenant une législation qui fixe l'origine des produits sur tous les produits. Que l'Union européenne soit d'accord ou pas, je l'ai dit à un des ministres ou sous-secrétaire d'État, je ne sais pas qui, tant pis, on plaidera devant la Cour de justice de la communauté européenne, mais ce sera un bien pour notre pays.
Guillaume Gibault, c'est vous qui aurez le mot de la fin.
Pour moi, c'est que les entreprises prennent à bras-le-corps leur rôle sociétal et imaginent des nouvelles façons de faire. On est face à une crise écologique immense et il faut que l'entreprise le prenne à bras le corps en fabriquant localement, durablement et elle doit le faire, c'est son rôle.
Eh ben merci à tous les trois. Je rappelle le salon Made in France Expo, porte de Versailles jusqu'à lundi soir. Près de 600 exposants, des dizaines de milliers de visiteurs. On y apprend forcément des tas de choses. C'est la fin de ce téléphone sonne. Merci à toute l'équipe.